Alors déjà, merci à tous d'être là. La première table ronde donc aujourd'hui à Lyon va se passer, commence jusqu'à 21h. Une autre table ronde se passera à Marseille dans 2 jours. Je vous invite à en parler autour de vous. Cet événement a pu se produire, c'est le SNAP CGT qui l'organise. On a pu le réaliser grâce à notre partenaire Audience, dont on vous parlera un peu plus tout à l'heure, après le repas. Là, Guillaume Lanneau, président de la SAIF, va commencer par une introduction sur les droits d'auteur et on enchaînera directement sur la table ronde de 11h à midi sur IA générative, quelles perspectives pour le travail des artistes. Si vous souhaitez, vous avez des programmes à l'entrée qui vous donnent tous les détails. Et à l'entrée du bâtiment, nous avons créé un formulaire pour vous transmettre les podcasts parce que nous avons aussi un partenariat avec la radio R22 sur lequel on est diffusé en direct. Merci à tous.
Bonjour, donc moi je suis Guillaume Lanneau, je suis scénographe, graphiste. Je suis militant du SNAP CGT depuis un certain temps. Et en ce moment, je suis président de la SAIF, qui est donc une société de droits d'auteur pour les auteurs de l'image fixe. En invitant la SAIF, le SNAP ne fait pas du placement de produits. La SAIF existe parce que ça a été la volonté de la quasi-totalité des organisations professionnelles de créer une société d'auteurs qui soit au service de tous les auteurs des arts visuels en 99, parce qu'on a constaté que l'autre société d'auteurs, celle qui existait depuis déjà 45 ans, mettait un peu de côté les artistes modestes et donc les privait de leurs droits collectifs, dont je vais vous expliquer la nature. Donc là, le but, je vais faire une présentation assez rapide, c'est juste pour replacer le contexte du droit d'auteur, des différents droits d'auteur qui sont les nôtres, avant tout à l'heure qu'on parle de l'intelligence artificielle, qui est un défi conséquent qui nous attend. Donc, comme je vous le disais, la SAIF a aujourd'hui 24 ans. On fêtera notre quart de siècle l'année prochaine. On est actuellement 8000 auteurs des arts visuels. Il y a 5500 photographes. Et puis le reste, c'est l'ensemble des pratiques, des graphistes, des peintres, des sculpteurs, des mosaïstes, etc. etc. Le principe du droit d'auteur, il est assez simple, c'est l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, c'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation de dépôt, d'enregistrement quelconque, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif, opposable à tous. Et donc c'est à partir de ça qu'on peut faire valoir un certain nombre de droits. On aura peut-être l'occasion d'en discuter en fin de journée, notamment sur la question du revenu de compensation. Le droit d'auteur, c'est un revenu patrimonial. C'est comme c'est un patrimoine au même titre que de l'immobilier. En 1793, puisque c'est le moment où le droit d'auteur est rentré dans la loi française, c'était évidemment une avancée importante parce que ça permettait à certaines catégories d'auteurs, pas les plasticiens, mais à l'époque plutôt les auteurs de théâtre, de percevoir des droits proportionnels à la diffusion et au succès de leur œuvre, ce qui avant n'était pas le cas. C'est-à-dire que l'auteur, il touchait une rémunération et que son œuvre fonctionne ou pas, ça revenait au même. Donc en 93, c'était une avancée. Maintenant, c'est vrai qu'on en reparlera cet après-midi, c'est... L'avantage du droit d'auteur, c'est qu'on l'a, mais la perspective d'un revenu compensatoire est sur l'aspect social une perspective bien plus égalitaire. Le problème du droit d'auteur, c'est qu'il a tendance à faire pleuvoir là où c'est déjà mouillé, puisque comme c'est une rémunération proportionnelle, plus vous êtes diffusé, plus vous allez percevoir de droits d'auteur, indépendamment de la qualité ou du travail qui vous a été que ça vous a demandé. Sauf que c'est un droit qui existe, qui rémunère en centaines de millions d'euros les auteurs chaque année, et que s'en saisir, eh ben, c'est simplement percevoir des revenus qui existent, qui vous sont dus quelque part, et donc il faut des outils pour ça, c'est pour ça que les sociétés d'auteurs existent. Alors, le principe dans la loi française, c'est que c'est une loi personnaliste, c'est-à-dire que c'est toujours la personne de l'auteur qui décide. Contrairement au copyright qui protège l'œuvre indépendamment de l'artiste, c'est pour ça que les droits peuvent être rachetés, voilà, c'est des investissements comme des autres, comme les autres. Dans la loi française, c'est bien l'auteur qui reste propriétaire de ses droits d'auteur et qui décide. Et ça permet donc à l'auteur de protéger l'intégrité de son œuvre. Alors ça, en l'occurrence, c'est le droit moral, c'est le fait que votre œuvre ne soit pas détruite, détournée, modifiée sans votre accord. C'est d'autoriser l'exploitation, c'est-à-dire vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord sur une utilisation qui serait faite, et au regard de cette autorisation, de percevoir une rémunération. Donc tout ça se négocie. Alors, question de principe, c'est est-ce que toutes les œuvres sont protégeables presque ? Il y a quand même quelques conditions. La première, d'abord, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est protégé dès sa conception. Donc vous n'avez pas de dépôt légal à faire, ni quoi que ce soit. Par contre, deux conditions importantes, il faut que l'œuvre soit concrétisée. Donc il faut que matériellement, il y ait quelque chose qui la fasse exister, mais vous pouvez faire exister une installation à travers un texte qui la décrit. C'est-à-dire que la réalisation, la matérialisation ne passe pas nécessairement par la réalisation de l'œuvre elle-même, mais par la matérialisation de son projet. Et puis la question de l'originalité, qui est une question un peu délicate, parce que dans l'histoire de l'art, des déjeuners sur l'herbe, il y en a eu des pelletés. Est-ce que pour autant tous sont originaux ? Quelque part, l'originalité, c'est le juge qui décide en cas de conflit. Et actuellement, c'est utilisé par plein de diffuseurs, notamment dans le champ de la photographie, qui utilisent des photos, les publient. Donc si les publient, c'est qu'a priori, elles avaient un intérêt. Et qui, une fois qu'elles ont été publiées, disent « Ah non, mais votre photo là, de coucher de soleil, elle n'est pas originale, j'aurais pu faire la même ». Bon, déjà, il n'avait qu'à le faire, mais bon. Et donc, ce critère de l'originalité, il est souvent utilisé pour, en fait, ne pas payer les droits d'auteur. La difficulté qu'on a, c'est que dans la loi française actuellement, quand on va devant le juge, il faut que l'auteur prouve l'originalité de son œuvre pour chaque image. Alors, si c'est une photo sur une couverture, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est compliqué, mais... ça se justifie, l'auteur peut dire j'ai fait cette photo avec ce cadrage à ce moment de la journée, par ce temps-là, etc. Bon. Sauf que quand le désaccord porte sur des centaines, voire des milliers de photos, comme on a des cas de gens qui ont travaillé pour des mairies, pour des choses comme ça, l'auteur est censé justifier l'originalité de chaque photo une à une, et en fait là ça devient un boulot tellement gigantesque qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas défendre l'auteur. Et donc la CEF est porteur d'un projet de loi en ce moment, qui devrait passer au Sénat bientôt, pour inverser le phénomène de la preuve, c'est-à-dire que ça sera au diffuseur qui conteste l'originalité de l'œuvre de prouver qu'elle n'est pas originale. Ce qui va changer les choses pour nous, parce que du coup, il y a beaucoup de diffuseurs qui n'utiliseront plus cet argument pour ne pas payer les droits d'auteur. Donc, que l'œuvre soit concrétisée et originale, et puis les critères rejetés, la forme, c'est-à-dire que la loi ne dit pas, voilà, une œuvre d'art, ça peut être ça, de la peinture, la musique, etc. Potentiellement, n'importe quoi, entre guillemets, peut être une œuvre d'art. Et c'est tout l'intérêt de la loi, c'est de ne pas limiter les champs de la création. Le mérite, alors pour faire court, ça peut être moche, mais c'est quand même une œuvre. Heureusement, parce que sinon on pourrait bêner la moitié de l'histoire de l'art à l'époque où les œuvres ont été créées. Et puis la destination, c'est-à-dire que votre œuvre peut être utilitaire ou décorative, entre guillemets. Ça n'impacte pas le fait que ce soit une œuvre. Pour ça que les œuvres de designer, une cafetière, est protégée par le code de la propriété intellectuelle, parce que à l'origine, c'est une création de forme comme une autre. Alors, un élément important, et que souvent les auteurs, et notamment les plasticiens, méconnaissent, ou en tout cas ignorent volontairement ou pas, c'est le fait que quand vous vendez l'œuvre, vous ne cédez pas automatiquement les droits d'exploitation. C'est-à-dire que vous pouvez vendre une peinture à un centre d'art, dans le contrat doivent être prévues les conditions d'exploitation et éventuellement la rémunération qui l'accompagne. Si vous vendez une illustration, vous n'autorisez pas pour autant le fait de faire avec des t-shirts, des mugs, je ne sais pas quoi. Vous vendez une illustration qui peut être exposée, qui est achetée par quelqu'un, exposée pas de façon publique, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi du droit de plantation publique. Mais voilà, donc il faut bien séparer les deux. Vous vendez une œuvre et vous négociez les droits d'exploitation par ailleurs. Je reviendrai tout à l'heure sur les conditions de cette négociation. Alors, la loi prévoit, parce que c'est quand même notre lot souvent commun, les œuvres à plusieurs. Alors, quand il y a un auteur unique, c'est pas très compliqué, hein, il est tout seul, c'est lui qui décide. Vous pouvez faire une œuvre de collaboration, ce qui est un peu connoté depuis 1944, mais l'œuvre de collaboration, c'est que vous êtes plusieurs auteurs à participer à une œuvre, mais on ne dissocie pas l'apport de chacun. C'est-à-dire qu'on considère que l'œuvre appartient de façon égalitaire à l'ensemble des auteurs qui ont participé à sa conception. Et donc, c'est bien l'ensemble des auteurs qui doivent décider de l'exploitation, des droits cédés, etc. L'œuvre composite, alors ça, c'est une planche parfois glissante, notamment avec Internet et le fait de pouvoir récupérer gratuitement, entre guillemets, des images, c'est quand vous intégrez une image préexistante à une œuvre que vous faites vous. C'est-à-dire que logiquement, à partir du moment où vous utilisez l'œuvre de quelqu'un d'autre, il faut demander son autorisation, et au regard de cette autorisation, il peut vous demander des droits d'auteur, de la même façon que vous le faites, vous, dans vos créations. Donc il faut faire attention quand vous utilisez des œuvres qui ne sont pas à vous, parce que si vous ne prenez pas un certain nombre de précautions, vous violez le droit d'auteur. Et puis l'œuvre collective, elle est un petit peu... à part, c'est quand on considère que le cadre qui a été donné par le commanditaire est tellement cadré, ce qui est normal pour un cadre. Je prends l'exemple d'un dictionnaire. Quand un éditeur fait un dictionnaire, les auteurs qui rédigent les définitions perdent leur qualité d'auteur parce que les contraintes sont tellement importantes qu'on considère que c'est le commanditaire, donc le diffuseur, qui est titulaire des droits et pas les 200 ou 3000 auteurs qui ont fait chaque définition. Après, dans notre champ, l'œuvre collective est rarement utilisée. On est plus sur les trois précédentes. Et encore une fois, il faut être vraiment vigilant si vous intégrez des images qui ne sont pas directement les vôtres. Donc, le premier droit, comme je disais tout à l'heure, c'est le droit moral. C'est celui qui vous protège. Il ne vous rapporte rien financièrement, mais il protège votre œuvre de ce qui pourrait en être fait. Donc, il est perpétuel, inaliénable et incessible. Bon, perpétuel, je ne vais pas là. Inaliénable, ça veut dire que il ne s'arrête pas dans le temps. Non, c'est perpétuel. Inaliénable, on ne peut pas vous le retirer, sauf par décision de justice, mais bon... et incessible, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas en céder la gestion à quelqu'un d'autre. Le droit moral, les sociétés d'auteurs, je développerai après, mais ils sont là pour représenter les auteurs, mais pas sur le droit moral. Le droit moral, c'est toujours l'auteur qui décide, et c'est très bien comme ça, parce que voilà, c'est pas à quelqu'un d'autre de décider à votre place de ce que vous avez envie que votre œuvre devienne. Donc il y a différents droits, alors je ne vais peut-être pas détailler parce qu'on avait dit qu'on allait vite. Le droit de divulgation, c'est de choisir en gros à quel moment vous diffusez votre œuvre, ce qui est assez limite dans le cas d'une œuvre de commande, évidemment. Si on vous demande une affiche pour Noël et que vous décidez de la publier à Pâques, ça va être compliqué. Le droit de repentir, c'est pour retirer une image de la diffusion, mais ça suppose de compenser le préjudice que vous allez générer. Par exemple, vous avez fait il y a longtemps une œuvre publiée dans un catalogue. 20 ans après, vous trouvez que cette œuvre n'est pas digne de la brillante carrière que vous avez eue et vous souhaitez qu'elle soit retirée et que les catalogues soient détruits. Dans ce cas-là, vous pouvez l'exiger, mais il va falloir compenser la perte liée à la destruction des catalogues vis-à-vis de l'éditeur, ce qui fait qu'en fait, personne n'a les moyens de le faire pratiquement. le droit à la paternité, alors c'est le code de la propriété intellectuelle, il n'a pas envisagé la maternité, c'est qu'on ne peut pas vous interdire de signer votre œuvre. Donc normalement, voilà, c'est un droit qui vous appartient. Vous avez aussi le droit de ne pas signer votre œuvre, on ne peut pas vous obliger, et ce n'est pas parce que vous ne signez pas votre œuvre que pour autant vous perdez les droits d'auteur qui y sont attachés. C'est, voilà, vous avez la liberté de choisir ou pas de signer. Et puis donc le droit à l'intégrité, qu'elle ne soit pas détruite, modifiée, déplacée, etc., etc. Donc voilà pour le droit moral. Alors maintenant, on va parler de ceux qui rapportent, ceux qui sont plutôt l'objet des sociétés d'auteurs. Donc il y en a quatre principaux. Le droit de présentation publique, vous faites une exposition, votre œuvre ou vos œuvres sont diffusées au public. Vous devez toucher une rémunération. C'est le cas pour toutes les expos qui sont faites dans des lieux collectifs, les mairies, etc. Le droit de suite, c'est quand vos œuvres sont revendues par un professionnel du marché de l'art. Donc dans ce cas-là, il y a un barème qui est décroissant selon la valeur de l'œuvre. Le droit de représentation, quand votre œuvre est diffusée, notamment à la télé, etc. Et celui-là rapporte pas mal. Et puis le droit de reproduction, comme son nom l'indique, votre œuvre est reproduite dans des catalogues, sur des affiches, etc. N'importe quel objet. Et donc ça vous ouvre des droits. Les quatre sont importants. Et donc il faut pas. Pour nous, ça constitue un vrai revenu pour les auteurs. Et il ne faut pas sous-estimer les bénéfices que ça peut apporter. Normalement, quand vous faites un contrat, il doit y avoir quatre éléments pour que votre cession de droit soit valable. La durée, c'est-à-dire que vous cédez vos droits pour une durée que vous définissez, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Souvent, on voit des contrats, c'est cession pour toute la durée de protection des droits et voire au-delà. Truc qui veut rien dire, mais voilà, normalement il faut que la durée soit définie. La zone géographique, parce que vous n'allez pas toucher le même montant si vous cédez l'exploitation pour la ville de Lyon ou pour une exploitation nationale ou internationale. Plus la diffusion est large, plus les droits doivent être conséquents. Et pareil, on voit des contrats où c'est quasiment l'univers et même les espaces à découvrir, ce qui laisse de la marge. Les supports, plus il y a de supports différents, plus les droits vont être conséquents, parce que c'est proportionnel. Et puis la destination, donc ce à quoi l'œuvre va être utilisée. Alors, si je vous dis, demain, vous me donnez un montant pour une cession de droit sur une zone géographique, etc., je défie quiconque de pouvoir me donner un chiffre basé sur quelque chose d'un peu rationnel. Et donc, les sociétés d'auteurs ont fait des tarifs qui vous permettent en tout cas d'avoir une idée. Alors, que vous soyez membre d'une société d'auteurs ou pas, vous avez le droit de vous en inspirer. Si vous confiez vos droits en gestion à une société d'auteurs, la SEF par exemple, et si on facture pour vous les droits, on va utiliser ce barème. C'est-à-dire que vous soyez Yann Arthus Bertrand ou moi, le même barème s'appliquera. Pour nous, c'est aussi une mesure de traitement assez égalitaire des auteurs. Donc les barèmes doivent faire, les barèmes de la SEF doivent faire 60-70 pages. On a essayé de couvrir l'ensemble des utilisations dans la presse, dans les objets publicitaires, dans les affiches commerciales, non commerciales, etc., etc. Et donc voilà, vous avez le nombre d'exemplaires, le format, etc., etc. Donc ça vous donne une idée. Si vous décidez de ne pas confier la gestion de vos droits à une société d'auteur, à la SEF, ils sont en libre accès sur le site internet, vous pouvez les regarder. Si vous gérez vous-même vos droits, vous pouvez vous inspirer des tarifs et dire, moi je pense que compte tenu de mon travail, etc. Alors vous pouvez vous en éloigner, vous pouvez être au-dessus, en dessous, mais au moins ça vous donne une idée. Et encore une fois, ça crée un peu une base commune. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc c'est les droits individuels. C'est quand vous céder les droits d'exploitation de votre œuvre à quelqu'un. Donc vous en avez connaissance et vous négociez avec lui, au regard, encore une fois, de la durée de la zone géographique. Soit vous gérez vos droits tout seul, et très bien, la loi vous y autorise complètement, ça vous fera des revenus de droits d'auteur qui sont intégrés dans vos revenus d'artiste. Soit, si vous le faites mal, que ça vous gonfle, que vous n'avez pas envie, etc., vous pouvez confier cette gestion-là à une société d'auteurs. Si vous les confiez à l'ASF, voilà, encore une fois, nous, on va appliquer ces barèmes. Il suffira de nous prévenir quand vous avez une diffusion que voilà, vous êtes avec un diffuseur, vous nous donnez ses coordonnées et vous décrivez grosso modo ce que vous faites pour lui. Et l'ASF prendra contact avec ce diffuseur, se basera sur les barèmes et facturera ce qui vous est dû en termes de droits d'auteur. Voilà, pour les droits individuels, le principe est assez simple parce que vous avez connaissance des choses. Il y a un autre type de droit qui est un droit assez essentiel et qui est celui pour lequel on rémunère le plus d'auteurs à l'ASF, c'est ce qu'on appelle les droits collectifs. Les droits collectifs, c'est des droits qui sont perçus de façon forfaitaire parce que à l'unité, c'est absolument ingérable. Donc il y a la reprographie, tous les magasins de photocopies, les copy shops, etc., chaque année versent une somme au regard du nombre de copies qu'ils ont générées, parce qu'on ne va pas mettre un flic derrière chaque photocopieuse, et qu'il y a ce qu'on appelle l'exception pour copie privée dans la loi française, qui permet à n'importe qui de copier des œuvres protégées. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre un bouquin d'un artiste, d'aller faire des photocopies, et d'utiliser ces photocopies pour votre usage personnel. Et ça, on ne peut pas le mesurer à l'unité près, et donc on en a fait un droit collectif. Pareil pour le prêt en bibliothèque. Le prêt en bibliothèque, vous avez des livres qui sont des œuvres protégées, que ce soit de la littérature, des catalogues d'expo. On ne va pas non plus mettre un flic derrière chaque rayonnage. Et donc chaque année, les bibliothèques versent une somme forfaitaire pour le prêt des livres. Idem, et alors ça c'est le gros morceau pour les téléphones, c'est-à-dire que quand vous achetez un téléphone, même si vous ne le savez pas, vous payez une contribution pour les auteurs, parce qu'on considère que sur votre téléphone, vous allez enregistrer de la musique, peut-être des textes, des images, etc., etc. Et donc, selon la capacité du téléphone, vous allez contribuer à hauteur de entre 3 et 14 euros, selon la capacité du téléphone, pour les copies d'œuvres protégées que vous allez faire. Pareil pour la télévision, alors ça s'appelle la câblo-distribution, c'est un peu... mais bon, c'est la diffusion télé. Et puis l'enseignement... tous les établissements d'enseignement, notamment l'éducation nationale, les universités, chaque année versent une somme pour pouvoir diffuser des œuvres protégées au sein des classes et des cours qui sont faits. Parce que, encore une fois, si chaque prof devait demander des autorisations à chaque artiste pour toutes les œuvres diffusées, évidemment, on s'en sortirait pas. Donc, tous ces droits-là, ils sont collectés de façon forfaitaire. Ils viennent abonder un organisme qui s'appelle Copie France, qui grosso modo récupère entre 280 et 300 millions d'euros par an, c'est quand même pas rien, 300 millions d'euros par an, et ensuite ces sommes sont réparties à l'ensemble des sociétés d'auteurs. Alors, les sociétés d'auteurs, il n'y en a pas énormément, j'aurai la liste après, c'est très fraternel, voilà, sauf au moment de la répartition, où là, tout le monde sort le couteau, la tronçonneuse, et où ça devient un tout petit peu plus violent, parce que chacun met son catalogue sur la table en disant « moi, je veux le plus gros morceau ». Alors, en général, le plus gros morceau, il est systématiquement pour la SACEM, qui a un milliard et quelques de budget. Voilà, donc ils en prennent un tiers, grosso modo, et puis les 200 millions qui restent, c'est pour la Valtaille, c'est pour nous. Ces droits-là, si vous n'êtes pas dans une société d'auteurs, vous ne pouvez pas les percevoir. Parce que, simplement, l'État ne vous connaît pas. Et, alors, il vous connaît pour vous demander des cotisations sociales, mais il ne vous connaît pas pour répartir vos droits d'auteur. Et donc, il faut que vous soyez dans une société de droits d'auteur, parce que c'est le seul moyen pour vous de toucher un petit bout des 300 millions. un petit bout, hein. Je ne vais pas non plus vous faire des promesses démesurées. Et donc, à la CEF, c'est l'essentiel de nos recettes et l'essentiel de nos répartitions, ce sont les droits collectifs. J'y reviendrai après. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas énormément de sociétés d'auteurs. Alors après, il y a des sociétés de droits voisins que j'ai pas mis. Mais donc, la musique, bah, tout le monde connaît la SACEM. Dans le multimédia, le reportage, c'est la SCAM. Sur l'écrit, le spectacle, la SACD. Sur l'édition et le prêt en bibliothèque, la SOFIA. Et puis, les arts visuels, alors nous, on a une particularité. Hein, c'est que comme on est le secteur le moins structuré, on a deux sociétés d'auteurs. Donc la DAGP, qui est la société historique qui existe depuis 70 ans cette année, et puis la CEF, qui est la petite jeune dans l'histoire, parce qu'on a 24 ans. Et en fait, donc, comme je vous le disais en préambule, la CEF s'est créée parce qu'à la fin des années 90, l'ensemble des sociétés d'auteurs ont constaté que la DAGP refusait les artistes modestes. Si vous n'étiez pas un artiste bankable, la DAGP, moi j'en ai fait l'expérience naïvement quand j' ai commencé à travailler. On a fait des images et puis j'ai appelé la DAGP. La DAGP, non, c'est bon, vous n'avez pas besoin de nous. Votre image, elle est imprimée, vous avez la preuve. Circulez, il n'y a rien à voir. Sauf que du coup, cette attitude faisait que tous les droits collectifs dont la totalité des auteurs devraient bénéficier, ils ne pouvaient pas les percevoir puisque la DAGP était un cercle fermé de 4000 auteurs. Et que les 80 000 autres ne pouvaient pas rentrer et donc percevoir leurs droits. Et donc, la quasi-totalité des organisations professionnelles dans le champ des arts visuels a donc créé en 99 la SAIF, qui s'est toujours construit sur des valeurs qui soient des valeurs de solidarité. On a essayé de cultiver une certaine égalité entre les auteurs et de faire valoir les droits collectifs, par exemple sur la reprographie ou ce que je vous montrais tout à l'heure. Avant que la CEF n'existe, la DAGP ne les réclamait pas, parce qu'ils avaient un fonds de roulement avec les artistes morts ou les quelques artistes célèbres. Et donc, ça tournait, et ils n'allaient pas chercher les droits collectifs, parce qu'en fait, ils n'en avaient pas besoin. Quoi. Donc voilà, la CEF s'est construite sur ce principe-là. Alors, c'est le même pour la DAGP, mais adhérer à une société d'auteurs, la CEF en l'occurrence, ça vous coûte 15,24 € à vie. C'est-à-dire que vous payez une fois 15,24 € et ensuite, chaque année, vous allez percevoir des droits d'auteur. On a mis en place un dispositif, je vous montrerai tout à l'heure, où maintenant, depuis début 2023, vous n'avez plus à payer les 15,24 €, ils seront déduits des premiers droits qui vous sont versés. Alors au final, vous les payez quand même, hein, parce que quand ils sont déduits, c'est quand même de l'argent que vous avez en moins, mais vous n'avez plus à faire le chèque ou le virement. C'était un peu compliqué pour tout le monde. Donc il y a une case maintenant dans le bulletin d'adhésion. C'est tout ce que ça vous coûtera. Si vous décidez de démissionner, ce qui est votre droit le plus absolu, on vous rembourse les 15,24 € parce que c'est une part sociale. Donc, si vous partez, on vous rend la valeur de votre part sociale. Donc, en fait, les risques, ils sont absolument nuls. Enfin, le seul risque potentiel, ça serait que demain, la CEF coule, c'est-à-dire avec entre 4 et 5 millions d'euros de budget, je doute demain, ça serait que la CEF coule et que vous perdiez vos 15,24 €. C'est le pire qui puisse vous arriver. Ce qui n'est pas un risque démesuré. Et donc, comment ça marche ? Donc, vous avez l'apport obligatoire sur les droits collectifs, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, l'Internet, les téléphones, etc. Parce que comme vous ne pouvez pas les gérer tout seul, le moins que vous puissiez apporter en gestion, c'est ceux-là. Donc ceux-là, ils sont obligatoires. Et puis, vous pouvez choisir ou non d'apporter vos droits de gestion individuelle. Donc, c'est ceux que vous négociez quand vous avez un commanditaire et une diffusion. Votre liberté est complète et vous pouvez aussi choisir de ne pas nous confier vos droits individuels. Et si l'année prochaine, vous avez une grande expo à Beaubourg, ce que je vous souhaite, évidemment, vous pourrez, parce que c'est compliqué quand même de négocier des droits sur une telle ampleur où il y a beaucoup de communication, des catalogues, etc. À ce moment-là, si vous êtes membre de la SAIF, vous pouvez demander à la CEF de gérer uniquement ce dossier-là. Donc vous faites un apport ponctuelle de vos droits individuels sur un dossier. Et à ce moment-là, les juristes de la CEF négocieront avec Beaubourg, ce qu'on fait très régulièrement, pour gérer vos droits et les facturer. Alors, évidemment, ce n'est pas en payant 15,24€ à vie une fois qu'on fait tourner la boutique, qu'on paye le loyer, qu'on paye les juristes, que je ne suis pas payé parce que je suis bénévole, mais voilà, il y a quand même un coût de fonctionnement. Et donc, sur les droits, la CEF prend une part de frais de gestion. C'est 15% sur les droits... c'est 15% sur les droits individuels et c'est un montant variable qui varie entre 20 et 25% sur les droits collectifs. Il est variable parce qu'en fait, chaque année, et là ça arrive à grands pas, dans les derniers jours de l'année, on se réunit, on fait un conseil d'administration et une fois qu'on connaît à la fois nos recettes et nos dépenses, on réajuste le taux de gestion pour qu'il soit le plus bas possible, pour qu'en fait, il reste le maximum de droits à reverser. C'est-à-dire, la solution de simplicité, ça serait de dire les frais de gestion sur la gestion collective, c'est 30%, voilà, et on n'en parle plus, et puis s'il y a du bénéf, et tant mieux. La société d'auteurs n'a pas pour vocation de faire du bénéfice. C'est-à-dire, les seuls actionnaires qu'on a à rémunérer, c'est les auteurs. Donc, on s'ajuste au minimum pour faire en sorte que les frais de gestion nous permettent de rémunérer au maximum l'ensemble des auteurs. Donc, en plus de la gestion pure de vos droits, il y a des juristes que vous pouvez appeler, elles sont 1, 2, 3, 4, qui peuvent vous conseiller, si vous avez des questions à leur poser, elles sont là pour ça, en plus de gérer tous les dossiers. Et puis, on répartit ce qu'on appelle le quart copie privé. Alors, le quart copie privé, ça nous est imposé par la loi. Sur le petit bout des 300 millions qu'on va toucher, on va dire, pour arrondir, que la CEF touche 4 millions, la loi nous impose d'en utiliser un quart qu'on ne répartit pas aux auteurs, mais qui servent à financer des actions, des expositions, des initiatives, des moments de formation. On finance l'AFDAS, que vous pourrez voir, qui est au fond de la salle, donc la formation professionnelle des auteurs. Et donc, chaque année, on accompagne entre 120 et 130 manifestations culturelles, dans le champ des arts visuels, parce que c'est notre secteur. Et puis, on agit pour la défense du droit d'auteur. Encore une fois, parce que c'est notre champ de compétences, on a pris la décision à la CEF, contrairement à beaucoup d'autres sociétés de droit d'auteur, de cantonner notre action au droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on considère que sur tout le reste, c'est aux organisations professionnelles de garder la voix et la parole. Une société d'auteur, c'est fait pour gérer les droits d'auteur. Et donc, nous, on intervient, y compris sur des propositions législatives, mais uniquement dans le champ des droits d'auteur, c'est-à-dire que la CEF ne se mêlera pas de la continuité de revenus, même si par ailleurs la continuité de revenus serait une excellente chose pour l'ensemble des auteurs. Mais voilà, je ne le dis pas en tant que président de la CEF. Si vous voulez adhérer, alors on connaît tous notre capacité à procrastiner. Si vous repartez avec le bulletin d'adhésion, il a 2 chances sur 3 de finir sur la pile des trucs à faire. Et puis, dans 1 ou 2 ans, on se recroisera. Et puis, vous direz « Ah ouais, je devais le faire, mais j'ai oublié, je ne l'ai pas fait, etc. » Moi, j'ai des bulletins d'adhésion là. Si vous voulez le faire, vous avez le droit de les remplir. Si vous ne voulez pas, personne ne vous y oblige. C'est hyper simple d'adhérer à la CEF. Vous avez des renseignements on ne peut plus basiques à remplir. Et en fait, je vous ai mis ça juste parce que c'est du langage juridique, donc c'est absolument imitable. Vous avez les apports obligatoires dans l'acte d'adhésion. Ça, c'est les droits collectifs. C'est ceux que vous êtes, entre guillemets, forcés de nous confier parce que vous ne pouvez pas les gérer seul. Et puis, ce qui est marqué en apport facultatif, c'est vos droits individuels. C'est ceux que vous pouvez... Je suis un peu long ? Je vais raccourcir. C'est ceux que vous pouvez choisir de nous confier ou pas. Voilà. Donc, vous avez des cases à cocher. Si vous ne les cochez pas, on ne s'occupera pas de vos droits individuels. Il faut le faire en 2 exemplaires, parce que comme c'est un contrat, il y en a un qui est gardé par la CEF et l'autre qui vous sera renvoyé une fois rempli. Faire sa déclaration annuelle, je n'ai pas le temps, donc je passe. Oui ? Mais après, je finis. Regarde, c'est mon dernier écran. Merci. Donc, comme je vous le disais, la SEF, elle est égalitaire, c'est-à-dire que quand vous êtes sociétaire de la SEF, vous avez une part sociale et vous avez une voix au moment des votes. Pour prendre un exemple, à la DAGP, si vous êtes membre depuis 10 ans, vous avez 10 voix, ce qui fait que si vous avez 10 mandats de personnes ayant 10 voix, ben vous avez 100 voix au moment des votes, et donc, voilà, c'est plié d'avance. Donc voilà, donc c'est une société égalitaire. Elle est démocratique parce que chaque sociétaire peut se présenter au conseil d'administration et dans les commissions. C'est-à-dire, voilà, on est tous des auteurs qui travaillons, enfin qui sont en activité. Et statutairement, on a au minimum un représentant par catégorie. Il y a 6 catégories d'auteurs à la SEF. Et au minimum, chaque catégorie a un représentant dans le conseil d'administration parce qu'on tient à cette diversité. Et aucune catégorie ne peut avoir plus de la moitié des représentants. Elle est solidaire parce qu'elle vous conseille, elle conseille tout le monde, même si vous n'êtes pas sociétaire. Et puis, alors j'ai pas le temps, mais je vais le faire quand même, Google, on a fait un choix, on a négocié il y a maintenant 3 ans avec Google de verser des droits d'auteur pour Google Images, Google Street, etc. Toutes les utilisations et tous les millions que ça génère, même si Google nous dit que la main sur le cœur, que Google Images leur coûte de l'argent, mais bon... Et donc, ce qu'on touche de Google, on a décidé de le répartir de façon égalitaire entre tous les sociétaires. C'est-à-dire que chaque sociétaire de la SEF touche chaque année la même somme, c'est grosso modo 130 euros, auxquels viennent s'ajouter d'autres droits. Mais on tient à cette égalité parce qu'on n'avait pas les outils pour mesurer la présence de chacun, notamment sur Google Images, et que, en fait... Les outils existent, mais les appliquer pour nos 8000 sociétaires coûtait plus cher que l'argent qu'il y avait à répartir. Donc on a dit, on fait une répartition égalitaire, ce qui veut dire que chaque année, 100% des auteurs de la SEF touchent les droits d'auteur. Si, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, si vous prenez la page 19 du rapport de transparence de la DAGP, il est précisé qu'en 2022, 28% des auteurs n'ont rien touché à la DAGP. C'est-à-dire que si vous êtes un auteur pas connu, il n'est pas dit que vous touchiez des droits à la DAGP, vous les toucherez à la SEF. Et puis, elle est combative, parce que, comme je vous le disais, elle a été créée par les organisations professionnelles, que la majorité des administrateurs sont issus d'organisations professionnelles. Alors, on fait bien la part des choses, hein, ce n'est pas une organisation professionnelle, la SEF, mais il y a quand même un ADN commun qui nous réunit, et donc, on va au combat. La SEF a été la seule à défendre la licence globale en 2004. Enfin, voilà, on mène des combats qui nous semblent être dans l'intérêt des auteurs, et Google, ça a été 16 ans de bataille, de procédures, de lobbying, etc., pour y arriver. On est les premiers dans le monde à avoir signé un accord avec Google. Et donc, voilà. Et donc maintenant, on va attaquer Meta. Enfin, on est déjà en discussion parce que, évidemment, il y a d'autres champs qui s'ouvrent à nous. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là toute la journée pour y répondre. Si vous voulez adhérer, j'ai des bulletins d'adhésion. Et j'espère que j'ai été clair. Voilà. Merci.
Alors, on va commencer, en fait, notre débat, mais justement, pour introduire, on a des tables partenaires ici. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je vous invite vraiment à aller les voir. La SEF, moi, j'ai l'habitude de dire SAIF, mais vous inquiétez pas, c'est la même chose. La CRA, qui sera là cet après-midi, Forme des luttes, dispositif allié Aura, qui est donc s'est implanté ici, le Massico, donc bien sûr le SNAP, vous en doutez, l'AFDAS et OHORA. On vous en reparlera peut-être plus tard. Indication, moi quand je me suis inscrite à la SAIF, il faut savoir qu'il faut le déclarer à l'URSSAF, je ne savais pas. Donc bien penser à ce genre de choses et à poser des questions. Avant de laisser la place à notre intervenante Colette Tron, qui est autrice critique et membre de l'association des amis Génération Thunberg Adams Realis, je vais me permettre de poser quelques questions à Guillaume, qui a été un peu bavard, mais du coup, c'était aussi des questions que j'espérais qu'on puisse aborder ensemble. Il ne faut pas hésiter sur les combats menés collectifs. Donc là, cette table ronde, elle est particulièrement, elle est axée sur l'IA générative, c'est-à-dire vraiment dans le sens du travail. Qu'est-ce que nous, quel est l'avenir de notre travail et comment est-ce que l'on regarde cette technologie, cet outil-là de notre point de vue. Donc je vais me permettre de commencer par un petit clin d'œil à Pierre-Michel Menger, qui est sociologue au Collège de France et qui sa chaire est l'acte créateur, qui aurait aimé être là pour pouvoir aussi en parler avec nous, et qui cite souvent Henri de Saint-Simon, qui disait vers 1800: les trois piliers de la société moderne sont le savoir, l'artiste et l'ingénieur. Donc Guillaume, avec ces IA génératives, finalement, où est l'artiste dans cette chaîne de valeur ?
Et ben, comme d'habitude, il a la source de tout et c'est lui qui perçoit rien. Alors juste un petit, enfin, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un gros enjeu pour nous. Il y a un élément alors qui n'est pas du tout lié au droit d'auteur, mais qui est quand même extrêmement problématique, c'est la question de l'hégémonie culturelle, parce qu'on sait bien que toutes les intelligences artificielles assez performantes en ce moment viennent des États-Unis, des grands groupes qui ont investi des milliards. Même si Xavier Niel a décidé qu'on allait faire notre intelligence artificielle française. Et ça pose quand même un problème, parce que bien évidemment, les algorithmes et les réponses qui sont apportées, quel que soit le domaine, que ce soit du texte, de l'image, etc., sont quand même porteurs de valeurs et de références culturelles qui ne sont pas les mêmes quand l'algorithme est nord-américain que s'il est africain, asiatique. Donc ça pose un problème de fond des questions d'identité culturelle. Après, sur le droit d'auteur, en fait, là, le combat qu'on mène, et honnêtement, il est relativement mal barré, mais je veux dire, quand on a lancé Google, c'était aussi extrêmement mal barré. Et au bout de 16 ans, on y est arrivé. Donc, rien n'est impossible. C'est de dire, nous, ce qu'on voudrait avec l'intelligence artificielle, c'est uniquement reproduire le modèle actuel qu'on connaît du droit d'auteur. C'est d'abord que l'auteur puisse décider ou non que son œuvre soit utilisée par l'intelligence artificielle. Et ça, ça pose pas de difficultés techniques. Il suffirait, alors c'est toujours facile de dire il suffirait, mais de respecter les métadonnées et d'intégrer une option d'utilisation ou non par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que plein de plateformes, notamment Facebook il n'y a pas très longtemps, etc., quand vous mettez une image, sucre automatiquement toutes les métadonnées. Donc l'image devient anonyme, plus traçable, etc. Et donc cette option d'utilisation ou non n'est pas effective. Donc il y a déjà ce choix du droit moral. Est-ce que vous voulez que votre œuvre alimente l'intelligence artificielle ? Et si c'est le cas, si vous acceptez qu'elle l'alimente, et c'est tout à fait respectable, ça doit donner lieu aussi à une compensation financière. Parce que bien évidemment, si tout le monde développe l'IA, c'est parce qu'il y a des milliards à se faire derrière, et que, encore une fois, on risque d'être les dindons de la farce si on n'arrive pas à faire qu'il y ait une compensation. Cette compensation, honnêtement, elle paraît ingérable si on la traite de façon individuelle. Et donc, je ne prêche pas pour ma paroisse, parce que le but n'est pas là, mais c'est comme Google, dire soit on arrive à obtenir un droit collectif, une compensation qu'on va ensuite répartir à l'ensemble des auteurs, parce que l'ensemble des auteurs qui sont sur Internet contribue à alimenter l'intelligence artificielle, soit pas. Mais on ne va pas s'en sortir s'il faut à chaque fois rémunérer individuellement chaque auteur parce qu'il a un demi-quart d'image qui a été réutilisé par une IA. Donc, il faut le gérer de façon collective. Et pour ça, il n'y a que les sociétés d'auteurs qui peuvent le faire. Et encore une fois, ce n'est pas gagné parce que tout le gouvernement, même s'il se réjouit d'avoir mis une... de faire rentrer les droits d'auteur dans le... Il y a un comité stratégique de l'intelligence artificielle qui a été mis en place. Bruno Le Maire a dit qu'avant de s'occuper des droits, il fallait quand même prendre notre place dans la... de cette technologie de pointe. Et donc, clairement, on n'est pas en tête de liste sur les priorités gouvernementales. Mais ce n'est pas grave. Hein, c'est pas parce qu'a priori, c'est perdu qu'il ne faut pas mener la bataille. Et encore une fois, voilà, si on avait mené que celle qui était gagnée, on n'en aurait pas mené du tout. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Et puis, les choses sont en train de se construire. Notre réflexion aussi. Et donc, on va voir ce que ça donne.